Merci de nous retrouver sur les ondes de Radio Galère pour cette nouvelle édition des carnets de Comaguerre hebdomadaire, en présence d'une bonne partie de l'équipe de Comaguerre qui est là, que je salue en ces périodes de canicule un peu attiédies, disons, mais enfin, Marie-Ange, bonjour.
Bonjour.
Roselyne, bonjour.
Bonjour.
Et je remercie également Aïcha qui nous fait face dans la cabine pour assurer la technique du jour. Je vais commencer par un petit voyage au Yémen. Alors, vous entendez parler, pas trop souvent, mais un peu du Yémen. Alors, on vous dit catastrophe humanitaire, des morts, de la malnutrition. On vous envoie une photo, j'allais dire, de petits biafrais, parce que depuis le Biafra, l'enfant malnutri à gros ventre, c'est un biafrais. Là, c'est des yéménites. Mais on ne vous explique pas trop ce qui se passe. Alors, je vais essayer de rappeler, alors, pas toute l'histoire du Yémen, parce que l'histoire du Yémen, qui est d'abord extrêmement ancienne, il s'agit de l'endroit le plus anciennement civilisé de la péninsule arabique, ça c'est à noter, ça remonte à des années autour de 2500 ans avant Jésus-Christ, c'est presque contemporain des empires égyptiens, il faut le savoir et pas l'oublier. C'est un pays qui est assez largement montagneux, ce qui explique une partie de sa culture, de ses langues, de ses modes de vie. Le point culminant de l'Arabie saoudite est au Yémen. C'est à 3200 mètres, ce qui n'est pas tout à fait rien. Des trésors architecturaux, enfin, je ne vais pas faire l'office du tourisme yéménite, mais c'est un pays qui méritait des visites. Alors pour l'instant, on n'y va pas parce qu'on s'y entretue entre différents groupes sur lesquels je vais un peu revenir. Mais ce qui s'est passé, donc cette catastrophe humanitaire, elle est la suite d'un coup d'État, d'un changement de régime, c'est-à-dire qui s'était installé depuis 1990, et je ne remonterai pas au-delà dans la très très longue histoire yéménite, un gouvernement unique pour le Yémen. Puisque avant, on était sous un gouvernement, deux gouvernements, le Yémen Sud et le Yémen Nord. C'est ça qu'il faut savoir. Alors, Yémen Sud, capitale Aden, port sur le golfe d'Oman, et Yémen Nord, capitale Sanaa, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est que ces deux gouvernements, donc celui du Sud était plus proche des Soviétiques, celui du Nord plus proche des Américains, de l'impérialisme occidental, mais la disparition de l'URSS, la chute des murs, etc., vous connaissez tous ce refrain-là, amène à la réunification en disant ben maintenant il n'y a plus de raison de s'opposer puisqu'il n'y a plus d'adversaires historiques. Ça se passe pas tout seul d'ailleurs cette réunification parce qu'il y a des traditions assez différentes. Les populations sont très inégales et elles le restent. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 75% des habitants du Yémen qui sont dans ce qui était la République du Nord et 25% au Sud. Pourquoi ? Parce qu'au Nord, il y a évidemment de l'altitude, mais des montagnes, de l'eau, des cultures vivrières possibles. Et au Sud, c'est très largement du désert. Donc ça fait écho aux Émirats Arabes Unis qui sont de l'autre côté de la frontière. Donc, réunification difficile, et on finit par arriver à un régime bâtard approuvé à peu près par tout le monde, mais on s'est un peu battu en 94, en 95, c'est pas très facile. Tout ça sur fond d'une assez grande pauvreté. Et il se passe une chose suivante, c'est qu'à un moment donné, une partie des habitants du Nord décide de se débarrasser du président qui réalisait, bon an, mal an, avec quelques difficultés, l'unité du pays. Le président Salé, S-A-L-E-H, pour ceux qui disent. Alors elle s'en débarrasse, et elle ne s'en débarrasse pas toute seule d'ailleurs, parce qu'il y a un monsieur qui est un proche collaborateur de Salé qui le pousse dehors et qui veut prendre sa place. Et ça se passe assez mal et ça va exacerber des tensions entre le Nord et le Sud et entre des groupes alors ethnico-religieux, j'arrive sur ce sujet puisqu'il fait partie de la une de la presse occidentale impériale, il y aurait d'un côté au Nord des vilains chiites et de l'autre côté au Sud des sunnites présentables. Bon, ce n'est pas du tout la réalité des choses, d'autant plus que les fameux chiites qui vivent de longue date sur le sol yéménite, en particulier dans le nord et dans les montagnes, sont une branche du chiisme qui n'a aucun rapport avec les autres, ni dans ses pratiques religieuses, ni pas de relation de travail, ni quoi que ce soit. Vous savez de toute façon qu'il n'y a pas un clergé chiite unifié mondialement. Il y a des groupes chiites, il y en a en Iran, il y en a dans d'autres endroits, mais il n'y a pas d'unification, on est mal habitué ici en Occident avec nos papes, à croire qu'ils régentent tous les gens de la même religion sur des espaces illimités, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc on a un peu circonscrit le problème en disant c'est un affrontement entre ces chiites, bien entendu pro-iraniens, parce que ça fait partie de la mise en scène générale, et puis les autres qui ne le sont pas, les sunnites. Alors qu'en fait, dans la partie nord qui donc essaye de trouver son indépendance aujourd'hui. Il y a aussi des sunnites qui vivent en bonne intelligence avec leurs voisins et amis et confrères et tout ce qu'on veut, qui sont donc de cette branche, disons, du schisme qu'on appelle les houthis ou les acariadismes dans un autre langage. On en arrive donc à un moment où le monsieur Hadi, qui a renversé le président Salé, l'a fait en obéissant en gros à la position des Saoudiens, parce que les Saoudiens disent si effectivement les fameux Houthis, donc ces rebelles du Nord, prennent le pouvoir, ils vont s'allier aux Iraniens et on a une espèce de loup dans la bergerie, c'est-à-dire on a juste à notre frontière sud un régime qui nous est hostile et qui est appuyé par notre ennemi de l'heure. Ce n'est pas exactement la réalité de la situation, mais c'est comme ça que ça vit. Et ça amène le régime saoudien à intervenir militairement contre la rébellion donc yéménite. Il le fait non pas instantanément, mais il le fait parce qu'à un moment donné, cette rébellion du Nord qui prend corps, qui est solide, à laquelle une partie de l'armée régulière présidée par le maréchal Salé, donc qui est en fuite, s'est ralliée, font une marche vers Aden. Et donc, si Aden tombe, ça veut dire qu'effectivement, la totalité du Yémen est entre les mains des rebelles. C'est à ce moment-là, donc on est au printemps 2015, que l'Arabie saoudite décide d'intervenir militairement. On est donc en été 2019, ça n'a pas arrêté depuis, ça n'a même fait que croître et embellir, au travers donc des gémissements, des sanglots de la communauté internationale qui dit « Mon Dieu, comme c'est dommage, comme c'est triste, comme c'est affreux, ces enfants qui meurent de faim, mais surtout, on laisse faire notre ami, le roi, enfin le prince saoudien qui a décidé de l'opération, le fameux prince MBS, comme on dit, Mohammed bin Salman. » Bien connu de toutes les chancelleries et qui occupe la quasi-totalité du pouvoir aujourd'hui à Riyad, après avoir fait le nettoyage, le ménage dans la famille et après avoir éliminé quelques opposants. Il faut se rappeler quand même que ce monsieur a été en capacité de faire assassiner dans les locaux du consulat d'Arabie à Istanbul un journaliste d'opposition qui était aussi un membre des familles régnantes en Arabie saoudite, qu'on a découpé en petits morceaux directement apparemment à la tronçonneuse dans les locaux de l'ambassade pour l'emporter dans des valises à la sortie. Voilà le genre de pratique. Alors, j'insiste sur ce genre de personnage qui devrait être au cachot depuis très très longtemps et qui en fait est honoré dans toutes les chancelleries françaises, britanniques, états-uniennes, comme un monsieur, ben mon Dieu, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de relations, il est assez puissant et donc, et surtout, on lui vend énormément de quincaillerie militaire. Et ça, donc, ça lui donne un avantage. Il est vraiment un excellent client. Je pense qu'on lui vend même un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il a beaucoup plus d'armement que ce dont il peut se servir contre les Houthis et la rébellion yéménite. Mais on n'arrête pas de lui en fournir de nouveau. Donc, ça renforce son sentiment, son espèce d'ego militaire démesuré, ne fait que croître au rythme des ventes. Alors, états-uniennes, bien entendu, françaises à l'occasion, britanniques, etc. Et donc, on sait aujourd'hui, même s'il ne faut pas le dire, alors je le dis, je le redis, merci Radio Galère, il y a des armes françaises qui tuent tous les jours des petits-enfants yéménites. Bon. Même si ça ne plaît pas Madame Parly, Madame Parly, c'est comme ça. Et on le sait, et c'est documenté par d'excellents journalistes. N'en parlons plus. Et donc, cette guerre donc, ne finit pas. Et il se trouve que dans la guerre, il s'était construit une coalition. Alors, il y a les tireurs de ficelle, donc Washington, Tel Aviv, qui veulent absolument que l'Arabie saoudite, qui est un ami des Israéliens et des sionistes, rappelons-le pour préciser les choses, mette un terme à cette rébellion qui menace. Alors, c'est doublement gênant pour l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, etc., qu'il s'agit d'une rébellion républicaine. Alors là, vous voyez l'ennui. Donc dans cette péninsule arabique où ne règnent que des émirs tout-puissants, surarmés, très très sûrs d'eux, accueillis avec tous les honneurs, tous les tapis rouges possibles et imaginables dans toutes les capitales occidentales, voilà-t-il pas une république qui est en train de prendre forme. Et donc c'est pas du tout possible, il faut absolument détruire ça. Donc on s'y emploie à la mesure des moyens mis en œuvre, c'est-à-dire bombardements réguliers, destruction des infrastructures, des stations, de l'eau, etc. Tout ce qu'il est possible de faire sur le territoire yéménite.
Et embargo.
Et embargo, bien entendu. Voilà où en est la situation. Il se trouve donc qu'il y a dans ce camp donc occidental, dont les acteurs militaires sur le terrain sont les Saoudiens et les Émirats arabes unis, leurs voisins, il se trouve qu'il vient d'éclater une dissension. Alors c'est très très intéressant à suivre, ça remonte à la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y a des milices en gros, des forces armées par les Émirats arabes unis et par... Là aussi, il y a un prince tout-puissant qui s'appelle Bin Zayed, qui est le prince d'Abu Dhabi. Les militants, des Émirats arabes unis ont décidé de taper dans les forces saoudiennes qui occupaient Aden et la périphérie d'Aden, la capitale du Sud. Ça veut dire quoi ? Alors, ça inquiète énormément les chancelleries parce que les Émirats arabes unis avaient annoncé il y a quelques semaines qu'effectivement, ils avaient décidé d'arrêter leur effort militaire. Alors, pourquoi ils avaient décidé ça ? Il y a toute une série de raisons, je vais essayer d'en les résumer. C'est-à-dire, d'une part, le constat, au bout de 4 ans de massacre de Yéménites, le conflit n'avance pas. C'est-à-dire que les Houthis et les rebelles du Nord résistent, et donc on n'en vient pas à bout. Et personne n'a imaginé de balancer une bombe atomique, donc conflit qui s'enlise. Deuxièmement, il apparaît que les intérêts, et ça c'est plus géopolitique profond, les intérêts des Émirats arabes unis et ceux de l'Arabie saoudite sont assez différents. Vous mettez d'un côté, du côté des Émirats arabes unis, donc Abu Dhabi, Dubaï, les plus connus, Sharjah et quelques autres, vous mettez des gens qui sont, enfin des pays plutôt tout petits, qui sont très peu peuplés avec les citoyens de leur pays et qui ne vivent que de l'immigration étrangère. Pakistanais, Soudanais, enfin tout ce qu'on peut trouver sur le marché international du travail qui travaille dans ces régions-là. Et en fait, ces pays-là commencent à avoir peur d'une difficulté, c'est-à-dire que si un conflit s'envenime, enfin tout ce qui peut se passer, cette main-d'œuvre viendra moins facilement. Elle se dira oui, mais on peut aller gagner sa vie à Dubaï, mais on risque de se faire tuer au coin des rues. Et donc, un danger. Et puis, il y a aussi le fait qu'ils ont énormément d'argent, mais qu'ils réfléchissent peut-être un peu plus loin. Alors, à l'inverse de l'Arabie saoudite, qui doit quand même nourrir à peu près 35 millions d'habitants, plus ou moins bien, eux, ils ont 4 chats à nourrir, ce n'est pas le problème. Hein. Donc, ils sont assez libres de leur mouvement et ils sont en train de dire, on a peut-être fait une alliance un peu délicate contre les Yéménites, il faudrait peut-être trouver un accord politique. On en est là. Il se trouve aussi que ces Émirats arabes unis exportent du pétrole et du gaz, ça chacun le sait, que ce pétrole et ce gaz passent principalement par le fameux détroit d'Ormuz dont je parlais la semaine dernière, et que la tension dans le détroit d'Ormuz fait qu'ils peuvent s'inquiéter à juste titre de la poursuite du conflit donc dans la zone du Golfe Persique et dans le détroit d'Ormuz, qui porterait atteinte à toutes leurs recettes. Alors ils ont des réserves, ils en ont un peu partout dans le monde, on n'a pas gelé, personne dans le monde, au moins occidental, n'a jamais osé gérer et bloquer les comptes, les avoirs des émirs du Golfe arabo-persique ou d'Arabie saoudite. Mais, comme ils l'ont fait pour la Libye, comme ils l'ont fait pour la Syrie, comme ils le font chaque fois qu'ils en ont envie, mais pas pour des amis. Alors, on retrouve là, c'est l'occasion de faire bien de souligner, on retrouve en fait cette espèce de dichotomie insupportable, c'est-à-dire que l'Occident soutient les monarques corrompus, surarmés, autoritaires, décapiteurs, etc., et oublie d'aider, on peut imaginer que la République yéménite est une république avec un avenir qui est un avenir républicain, comme d'autres. Alors ça, effectivement, ça dérange beaucoup le jeu, mais manifestement, nous, on préfère les acheteurs d'armes que les gens qui meurent des dites armes que nous vendons. On en est là, donc peut-être un point de rupture donc, de ce conflit. Ces Émirats arabes unis qui reprennent leurs forces, ils ont fait en telle sorte qu'ils ont attaqué des bâtiments officiels où il y avait le reste de gouvernement pro-saoudien. Les ministres, diplomates, enfin tout ce qui était du gouvernement, ce qui restait du gouvernement yéménite se sont enfouis à Riyad, où ils ont été accueillis puisque ce sont leurs serviteurs, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et donc on a une situation très ouverte, nouvelle, où effectivement la politique peut se mettre à jouer un rôle, et il faut mettre ça, comme je viens de le faire, en relation avec la crise du Golfe arabo-persique et la difficulté ou l'inquiétude de tous ces vendeurs de pétrole, du Koweït à l'Iran, à l'Irak, etc., la difficulté à exporter si jamais le détroit d'Ormuz était fermé. Alors, on n'en prend pas le chemin. On n'en prend pas le chemin parce qu'il se trouve que notre ami Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, a reçu récemment le ministre de la Défense iranien. Ils ont annoncé tout simplement, tenez-vous bien, que l'armée russe et la marine de guerre russe et la marine iranienne, qui n'est pas négligeable, bien équipée, allaient conduire des manœuvres communes dans le détroit d'Ormuz et dans le golfe Persique. Et là, c'est un véritable basculement, c'est-à-dire que on ne voit pas ça ici, on ne comprend pas. Mais pour les Américains, pour les sionistes, pour les Saoudiens, le Golfe arabo-persique, à la limite, il y a un intrus, c'est l'Iran, mais ça, c'est réservé aux monarchies et à l'Occident. Alors le fait que la Russie annonce très tranquillement, comme on dit, avec le ministre des Affaires iraniens, que ces deux pays vont mener des manœuvres militaires dans le Golfe persique et dans le détroit d'Ormuz, ça veut dire qu'aujourd'hui, si la flotte des États-Unis, la 6e ou la 7e, quelle que soit la flotte qui vient, elle se trouvera avec des voisins, d'autres participants à d'autres manœuvres. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture diplomatico-militaire de cette zone qui était, jusqu'à il y a très peu, une zone d'influence complètement unique de l'Occident et de son allié israélien et de ses alliés des monarchies du Golfe. Voilà le tournant qui se joue, et il se peut, j'interprète ça comme ça, que l'évolution, la position des Émirats arabes unis soit une position de on est prudent, on regarde un peu vers l'avenir, et après tout, il faut peut-être qu'on ménage un peu les différents camps en présence. D'autant plus que je rappelle, ça touche moins les Émirats arabes unis que le Qatar. Le Qatar partage avec l'Iran l'exploitation du plus gros gisement de gaz naturel du monde, qui est sous la mer, mais à cheval entre les deux eaux territoriales des deux pays. Donc il y a des quantités de possibilités de trouver d'autres moyens que l'atroce destruction du Yémen et de sa population pour transformer. Alors, je suis trop loin dans mon expression, le Golfe arabo-persique ne sera pas dans les 15 jours qui viennent un lac de paix, mais au moins y modifier les rapports de force et faire que ce ne soit pas uniquement les dictatures intégristes finançant le terrorisme partout où elles le peuvent, surarmées, qui y fassent la loi. C'est le chemin qu'on est en train de prendre progressivement et je voulais le souligner. Alors on en reparlera certainement parce que ce basculement donc, qui s'est passé à Aden est un basculement de très très grande importance. Alors Aden, je m'arrête quand même un instant sur le mot Aden. Aden fait partie de du long collier des bases britanniques le long de la route qui menait de Londres au Royaume des Indes. Parce que vous savez que la domination de la Grande-Bretagne sur le monde, vous savez que la reine Victoria disait, on disait à son époque, le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique, ça marchait parce qu'il y avait une longue série de bases militaires et navales tout le long du trajet qui permettait à la flotte britannique, la flotte de guerre qui protégeait les navires marchands, de faire le travail sans être dérangé par d'autres. Alors ces bases militaires, il est intéressant de le rappeler en ce moment, ça fonctionne toujours. C'est-à-dire quand il y a de ça maintenant 4 semaines ou 5 semaines, je ne sais plus exactement, la marine de guerre britannique depuis Gibraltar a arraisonné un pétrolier iranien. C'était un acte de piraterie internationale mené depuis Gibraltar, depuis donc cette base anglaise traditionnelle. Et vous savez qu'il y a des Espagnols qui réclament le retour de Gibraltar à la mère patrie espagnole, mais que les réserves, c'est pas l'hostilité britannique est totale là-dessus. Donc c'est un problème qui n'est pas réglé du tout. Quand on continue un peu plus à l'est, on arrive à Chypre. Alors à Chypre, c'est assez intéressant puisque ça a été assez longtemps une colonie britannique. Et puis quand les Britanniques se sont dit quand même, pour être un peu à la mode de la décolonisation, on va donner leur liberté à Chypre, ils ont gardé un morceau du territoire chypriote. Alors on vous parlera volontiers, oui, il y a l'armée turque dans le nord de Chypre, etc. C'est pas bien, c'est une occupation. Mais ce qu'on ne vous dira pas, c'est qu'il y a une partie du territoire de la République de Chypre, membre de l'Union européenne, reconnue par l'ONU, etc., qui appartient à l'armée britannique. Ce n'est pas simplement une base qui louerait, c'est du territoire britannique sur l'île de Chypre. Ça, c'est une nouvelle perle sur le collier impérial. Et il y en a d'autres après. Et la suivante, alors il y avait bien entendu le canal de Suez, qui a été perdu en 1956, on le sait. Et puis la suivante, c'était Aden. Aden, donc, qui contrôle, regardez sur la carte, qui contrôle le fameux détroit de sortie de la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb, et qui donc était la suite du collier de perles des bases maritimes britanniques, contrôlant l'accès à l'océan Indien et à la perle de l'Empire britannique. Voilà, c'est bon de rappeler ça parce que au-delà de l'Inde, il y avait encore une perle sur laquelle je vais m'arrêter et dont on parle beaucoup ces temps-ci. La dernière perle, qui est physiquement et géographiquement une perle extraordinairement belle, s'appelle Hong Kong. Alors, Hong Kong, c'est constitué donc d'une île qui s'appelle Victoria, et puis d'un faubourg terrestre qui s'appelle Kowloon, et puis de territoires peu occupés donc au nord de Kowloon. Ça a été donc le point dans lequel l'Empire britannique a introduit l'opium dans l'Empire chinois pour détruire la Chine et sa population. Hein, ça fait partie donc des guerres de l'opium, c'est connu. Hein, et donc ça s'est passé à partir de Hong Kong. C'est de là que les navires britanniques ont déversé ce qui devait tuer, moralement au moins et physiquement dans beaucoup de cas, les citoyens chinois qui étaient encore dans le régime impérial à l'époque.
Ce qu'on a appelé donc le siècle des humiliations.
Du côté chinois, le siècle des humiliations.
De 1850 à 1950.
Voilà, hein, puisqu'ensuite il y a une défaite contre la Chine à la fin du siècle, et donc c'est le siècle des humiliations. Bon, donc Hong Kong est resté britannique jusqu'à il y a fort peu de temps, puisque c'est en 1997 que Hong Kong a été réintégré dans l'Empire de la République populaire chinoise en ayant un statut particulier. Alors c'est très très simple, c'est-à-dire que le territoire de Hong Kong fait partie du territoire de la Chine, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, il y a un mode d'administration particulier, et ça pour une durée de 50 ans, qui fait que Hong Kong élit du personnel politique, une assemblée locale qui a un certain nombre de pouvoirs, mais de toute façon, diplomatiquement, c'est la Chine qui parle de Hong Kong. L'armée, il n'y a pas d'armée hongkongaise, c'est l'armée chinoise qui est maîtresse chez elle. Donc il y a une autonomie administrative qui doit durer 50 ans. C'est ce qui est écrit et ce qui a été signé par la Dame de Fer. Car il ne faut pas oublier que c'est Madame Margaret Thatcher, cette si vindicative et si brutale femme politique, qui a signé avec la Chine populaire communiste un accord pour rétrocéder Hong Kong. C'est-à-dire que rétrocéder un bijou de la couronne, c'était un acte qui a dû, lui, comme on dit à Marseille, lui fendre dans le cœur. Hein, on voit très bien le personnage intransigeant, exigeant, etc. Elle a été obligée de lâcher.
C'était en quelle année ?
Elle a signé, elle venait d'arriver au pouvoir en 85, je crois, donc ça a été mis en place après, en 97, donc il reste encore, j'ai compté, à 22 ans, c'est à 22 ans du statut, il reste encore 28 ans, et normalement, d'après l'accord signé par Maggie, en 2047, Hong Kong est totalement chinois. Alors ce qui se passe à Hong Kong, et j'allais arriver là-dessus, est très intéressant à suivre, parce que donc il y a Hong Kong à peu près 7 millions d'habitants, donc pas une goutte d'eau dans la mer chinoise, on peut dire, qui parle beaucoup l'anglais, qui parle aussi beaucoup le cantonais, pour pas parler comme les autres Chinois. Alors je ne veux pas dire que le cantonais n'est pas parlé, puisqu'en fait, le cantonais, c'est une des variantes une des langues possibles en Chine. Il y a peut-être 60-80 millions de locuteurs du cantonais dans la région sud-ouest de la Chine. C'est le cas à Hong Kong. Mais ces gens-là ont vécu pour une bonne partie sous régime britannique. Ils sont habitués à des mœurs britanniques, ils parlent anglais. Ils ont été et ils travaillent encore dans cette énorme banque qui est une des plus grandes du monde, qui s'appelait HSBC et qui s'appelle toujours HSBC. Il faut savoir qu'HSBC a fait sa fortune dans le trafic de l'opium. C'est comme ça qu'on fait des grandes banques, hein, dans les affaires illégales. HSBC d'ailleurs, qui a son siège officiellement à Londres parce qu'on est quand même prudent, mais dont le directeur général est toujours à Hong Kong. Bon. Alors cette histoire de rétrocession, alors c'est déjà largement avancé, il faut savoir aussi, ce qui a obligé Mme Thatcher à capituler, c'est que quand les diplomates britanniques ont fait le point de la situation, comment on peut garder Hong Kong, ils se sont aperçus que ces diables de communistes s'étaient organisés pour que toute l'eau potable de Hong Kong arrive de Chine populaire, pour que toute l'électricité ou presque toute arrive de Chine populaire, pour que tous les fruits et légumes arrivent de Chine populaire. C'est-à-dire, s'ils se fâchaient, il ne se passait plus rien dans Hong Kong, et donc s'ils se fâchaient encore aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passeraient comme ça. Et puis depuis 1997, la Chine n'a pas perdu son temps. Vous savez qu'elle a beaucoup évolué pendant les 22 ans que je viens d'évoquer. Et par exemple, le port de Hong Kong a perdu sa superbe. Il était très largement le premier port chinois en 1997. Ce qu'ont fait les Chinois, donc les communistes du Nord, c'est qu'ils ont créé, juste après la frontière entre Hong Kong et le territoire de la République populaire, un port qui s'appelle Shenzhen, où ils ont installé, à marche forcée, j'allais dire, la quasi-totalité des industries de la télécommunication moderne, les téléphones portables, ordinateurs, etc. Et que Shenzhen, aujourd'hui, est devenu un port plus important que celui de Hong Kong. Ils ont aussi installé une bourse, histoire de dire que la bourse de Hong Kong, c'est pas là où on fait la pluie et le beau temps. Et aujourd'hui, la bourse de Shenzhen fait plus d'affaires que la bourse de Hong Kong. C'est-à-dire qu'ils ont passé ces 22 ans à dire, bon, Hong Kong, on les laisse, ils vivent tranquilles, ils ont leurs habitudes, etc. Ils ont leur assemblée locale élue. Mais au fond, on n'a plus besoin, les Hongkongais ne sont plus en position de dire, sans nous, la Chine va au désastre. ça ferait rire tout le monde, et d'ailleurs ce n'est pas très sérieux. Et donc ce qui se passe, c'est que nos anglo-saxons, donc les Britanniques, toujours nostalgiques de cet empire et de cette perle de la couronne, voudraient bien que créer un problème avec la Chine, qui devient, on l'a dit, c'est l'ennemi stratégique des États-Unis, c'est marqué dans des textes, il n'y a pas de souci de ce côté-là, voudrait bien casser cet accord, trouver une possibilité pour dire, ben non, finalement, on pourra rester autonome, etc. Bon, alors on a inventé, il y a 4 ans, le mouvement des parapluies, là on en invente un autre.
On peut quand même toujours se méfier quand il y a une telle uniformité au niveau des insignes, des symboles. Quoi. Là, tout le monde a fait un parapluie.
Oui, tout à fait.
Et le même.
Le parapluie, oui.
Quasiment des t-shirts, voilà. Enfin tout ce qu'il voilà. fallait.
Alors c'est ce qui est en train de se passer. Alors,
des banderoles rédigées en anglais.
En anglais, bien entendu. Voilà. Et alors on voit, alors c'est assez étonnant parce qu'on a toujours, nous, un regard sur la situation française. Et on voit depuis donc, plusieurs semaines des manifestants casqués avec des masques, etc., qui cassent des choses. Et je me disais, mais... Quelqu'un qui, un de ces samedis, va en France casqué avec un masque sur le visage, qui casse du matériel, qui tape sur un flic et tout, le lundi, il passe en comparution immédiate. Hong Kong, il ne se passe rien de pareil, c'est tranquille, on peut manifester librement. Et puis, cerise sur le cadeau, il a sur le gâteau, on a vu ces jours-ci une photo des dirigeants de la rébellion hongkongaise, je mets des gros guillemets, reçus au consulat des États-Unis à Hong Kong, où manifestement, ils viennent prendre leurs consignes. Donc, il s'agit un peu, j'appelle ça, c'est du poil à gratter, non, anti-chinois.
Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu, parce qu'on dit qu'il y a eu, on dit ici qu'il y a eu 1400 arrestations quand même. Parmi les manifestants.
Oui, donc, il y a mais eu pas de condamnation. Il n'y a pas de, ah, y a pas oui, de prison
oui,
et tout.
Pardon.
Oui, oui, non, il y a eu arrestation. Il y a des moments, oui.
Oui, oui.
Mais voilà. Donc, je m'amusais du deux poids, deux mesures en disant en France, le moindre casque dans une manif du samedi des Gilets jaunes vaut la prison. Hein, ou bien un coup de poing du fameux boxeur, c'est la même chose. Et le licenciement, etc. Et là. Il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, ce qui a mis le feu aux poudres, mais je ne sais pas si c'est décalculé de la part de la diplomatie chinoise, c'était une décision de dire qu'un citoyen de Hong Kong qui défend des positions et qui a des actions hostiles à la République populaire de Chine, alors qu'Hong Kong en fait juridiquement partie, peut être appelé, peut être convoqué devant un tribunal à Pékin, ou au moins sur le territoire de la République populaire, puisque là, il s'agit des intérêts généraux de la Chine. Bon, ce texte a été rapporté, donc Pékin a dit, bon, ben on ne l'applique pas, n'en parlons plus, ça restera du ressort des juridictions hongkongaises. Et puis, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je pense que ça n'ira pas très très loin, et je note le grand calme des autorités chinoises par rapport au phénomène, pour ne pas donner de l'importance à ce qui est manifestement un mouvement téléguidé. Alors, je signale quand même qu'il y a quelques milliers de manifestants sur une population de 7,5 millions. Donc il n'y a pas insurrection à Hong Kong, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire.
Alors peut-être,
voilà.
Si
oui,
tu,
je te laisse la parole, Marianne.
Si tu y permets, puisqu'on en est sur les méchants chinois de la République populaire de Chine, je voudrais enchaîner, faire une petite parenthèse à propos d'une pétition que j'ai reçue, que vous avez peut-être reçue,
oui.
Que je t'ai fait suivre, Bernard et Roselyne aussi, et une pétition où il y a une très belle photo, et avec le titre est en anglais « We sign it », donc nous signons cela, et où on demande le reclassement de la plus grande réserve naturelle d'Afrique avec une très belle photo d'une antilope très spéciale qu'on ne trouve que là, enfin qui évidemment est menacée par l'installation des méchants chinois. Alors, que dit cette pétition ? La réserve naturelle de termites est Tintuma, plus grande réserve naturelle terrestre d'Afrique, est aujourd'hui menacée par la Chine via sa multinationale pétrolière, la CNPC, China National Petroleum Corporation. Le gouvernement nigérien, ça c'est le texte de la pétition, sous la pression de la Chine, vient de déclasser cette réserve naturelle. On continue. Nous ne pouvons pas laisser la Chine détruire impunément la biodiversité en Afrique. Mobilisons-nous. Demandons le reclassement de la plus grande réserve naturelle d'Afrique.
Voilà. Bon.
Donc, c'est vrai que si vous ne lisez pas toute la pétition ou si vous la lisez en vitesse, vous vous dites quand même c'est chinois,
ils
c'est
exagèrent,
dégueulasse.
Hein,
c'est vraiment... Et puis, vous voyez la photo, l'antilope, elle est magnifique. Donc, vous êtes prêts à signer. Mais quand même, si on va un peu plus loin, donc on va chercher qui est qui sont ceux qui sommes nous, c'est écrit, ceux qui envoient cette pétition. Alors, il s'appelle Active Génération. Et quand vous allez chercher qui sommes-nous, eh bien, Active Génération est, je cite, un collectif progressiste d'acteurs engagés via le digital, le numérique et l'innovation pour mutualiser les bonnes pratiques. On peut difficilement être contre. On est d'accord. Quand vous allez chercher dans leur, toujours sur leur site, dans le fil d'actualité, il n'y a pas d'actualité plus ancienne. C'est-à-dire qu'apparemment, cette pétition, c'est vraiment
leur chef-d'œuvre. Ouais.
Alors, déjà, donc, si vous allez chercher un peu plus loin encore et que vous allez chercher ce que c'est cette réserve, j'ai trouvé, moi, sur le site Notre Planète, tout à fait écolo, évidemment, elle est reconnue, cette réserve, par la communauté internationale bon, comme un site d'importance à protéger. Et plus de 11 millions d'euros ont été investis pour sa préservation depuis 2003. 11 millions d'euros, c'est pas rien quand même. Mmh. Hein,
bon. Pour un gouvernement nigérien.
Voilà. Cet investissement a permis, écoutez bien, de confier la gestion déléguée de la réserve, donc de cette réserve à protéger, à l'association française NOE, le 5 novembre 2018, avec pour objectif la sauvegarde de la biodiversité et du patrimoine naturel, ainsi que la sécurité et le développement communautaire des populations riveraines. Donc, première question, pourquoi est-ce que c'est une ONG française et pourquoi est-ce que ça n'est pas une ONG locale ou pourquoi est-ce que ça n'est pas une association locale qui gère cette réserve qui a, de la part de la communauté internationale, quand même pas mal d'argent qui arrive. J'ai regardé chez l'association française Noé et dans la réserve, dans le site de la réserve, il y a parmi les donateurs, notamment les donateurs, les agents publics, l'Europe, des fonds pour l'écologie européenne, ainsi de suite. Bon, tout à fait, effectivement, européen et écolo. L'autre question qui vient, c'est que, quand même, pourquoi est-ce que cette ONG NOE ne fait pas elle-même cette pétition? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il y a eu sous-traitance à une ONG que personne ne connaît et qui, ma foi, n'est quand même pas très active. Par contre, si vous allez chercher qui est cette association française, cette ONG, NOE, eh oui. Là, vous allez trouver tout un tas de gens, et notamment tout un tas de directeurs, donc le directeur fondateur, ancien de WWF, la directrice commerciale, le directeur comptable, le directrice de la communication. Enfin, je ne les ai pas comptés, j'aurais dû les compter, mais il y a vraiment énormément de gens. Et je ne pense pas que tous ces gens qui sont plus ou moins des anciens, mais pas seulement des anciens de WWF, soient bénévoles. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc tout ça pose quand même pas mal de problèmes. Pour revenir à ce qui s'est réellement passé et chronologiquement, donc le 26 juin de cette année, le Conseil des ministres du Niger avait décidé du déplacement des limites, pas du déclassement, mais du déplacement des limites de la réserve afin, je cite, de se conformer au contrat de partage de production qui lie depuis 2008 le Niger à la compagnie nationale chinoise. Donc, depuis 2008, il y avait un contrat qui liait les deux parties. Et or, il se trouve que le gouvernement donc, rappelle qu'une partie du périmètre de la réserve empiète sur les blocs pétroliers d'Agadem attribués à la compagnie chinoise. Donc, ces limites seront déplacées, mais la réserve conservera la même superficie de 96 560 km². Or, dans la pétition, on nous dit que 45 000 km² de l'aire protégée sont exclus. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a dans la pétition quelque chose qui est factuellement faux. Complètement faux. Et cette pétition vient d'une organisation, d'une association
très mal identifiée,
mais par contre, on va dire qu'il y a de l'argent derrière. Et il y a de l'argent derrière qui est confié à une ONG française et qui est confié à cette ONG française depuis peu de temps. Alors que les Chinois sont là-bas depuis 2008. Donc on peut se poser tout un tas de questions sur effectivement qui était là, qui s'aperçoit qu'il y a quelque chose là à faire et qui, dans le fond, fait pression contre la Chine et contre une compagnie chinoise. Okay. Autre question, la question pour finir, est-ce que vous avez reçu d'autres demandes de signer une pétition pour quelque chose qui se passe dans des réserves naturelles ailleurs, par exemple aux États-Unis ou dans ce qui constitue les colonies anglaises, ainsi de suite. Moi, je n'en ai jamais reçu.
Non, non, pas plus que de pétitions pour la protection de l'environnement autour des mines d'uranium françaises au Niger. Non plus.
Non plus. Pas. Voilà.
Donc, un non peu, plus. On a aussi deux poids, deux mesures.
Voilà.
Et dans la pétition, ah, si, c'est très bien que tu fasses la mise au point, la pétition fait comme si le, Niger, le gouvernement du Niger s'était couché devant
tout
les intérêts chinois.
Pression,
on dit, il y a un contrat, on discute, Chine, voilà. On retouche la limite en commun accord. C'est pas pareil. C'est pas pareil. D'un côté, on est dans un rapport néocolonisateur. C'est-à-dire la firme chinoise arrive, tape du poing sur la table, dit « Allez, déclassez-moi cette réserve » et le gouvernement nigérien se couche. C'est pas ce qui se passe.
Du tout. Du tout. Le gouvernement nigérien réajuste le périmètre en fonction du contrat qu'il a lié déjà auparavant avec cette compagnie chinoise. Et maintenant, il y a des Français qui, par l'intermédiaire d'autres personnes, une génération active, ma foi, on ne sait pas trop pourquoi faire, qui nous envoie des pétitions et uniquement là-dessus.
Oui, et donc il est très important de toujours lire entre les lignes, toujours.
Et au-delà des lignes, d'aller chercher
qui sont ces gens qui apparaissent dans le paysage médiatique dont on ignore tout. Alors il faut rappeler quand même, puisque au Niger, il y a des troupes françaises en permanence qui polluent à leur façon, parce que quand on tire et quand on dépense du carburant avec des hélicoptères et tout, c'est une forme de pollution. Dans le cadre de l'opération Barkhane, qui utilise à peu près 3500 soldats, depuis donc l'affaire malienne, ça continue. Là, on n'en parle pas, il n'y aura pas de pétition pour que les troupes françaises reviennent chez elles. Et je signale qu'il n'y a pas de troupes chinoises au Niger. Il y a une société chinoise qui arrive, qui négocie avec le gouvernement. Ça, c'est un enseignement qu'il faut toujours retenir dans ces présentations des interventions chinoises. Dès l'instant où il y a une société chinoise qui voit un gouvernement qui négocie, qui défend les intérêts de son pays, elle négocie, elle n'envoie pas le lendemain des hélicoptères avec des missiles pour tirer dessus. Elle ne renverse pas ce gouvernement. C'est ça la différence entre l'approche chinoise et l'approche états-unienne. C'est tout à fait différent. D'un côté, une approche impérialiste, vous pliez ou je vous tue. L'autre, on discute. Alors, les Chinois sont très capables de défendre leurs intérêts économiques, ils le font. Mais tout gouvernement africain qui se respecte peut le faire aussi s'il le décide. Et il faut savoir que le président Issoufou, le président du Niger, est un petit peu en délicatesse avec Paris, qui n'aime pas trop qu'il aille s'approcher d'autres investisseurs qui ne soient pas français. Ça joue aussi dans la fabrication de ce texte et de cet environnement médiatique.
Et à propos d'environnement médiatique, soyez prudent, vraiment, quand vous recevez des photos, des pétitions avec la photo d'une belle antilope ou d'un beau papillon, en l'occurrence, enfin, ainsi de suite. Bien sûr. Très prudent. Ça marche très fort en ce moment. Très, très fort.
Et ne cédez pas aux injonctions de la fameuse Greta. Panique. Oui, we don't panic, dear. Voilà ce qu'on lui dit. On n'est pas là pour ça. Alors, on va faire une petite pause musicale que Aïcha va nous assurer. On va écouter la bande musicale d'un film qui s'appelle Alamo.
Fort Alamo.
Fort Alamo, très exactement. Et je vous ferai un petit commentaire pendant qu'on écoutera la musique, parce que ça introduit à des rapports qui se nouent sur le continent américain, sur lesquels il faut qu'on s'arrête un petit peu. quelques images du film Fort Alamo, film qui met en scène donc une bataille qui a eu lieu réellement d'un fort assez avancé. Alors il s'agit de la guerre entre les États-Unis nouvellement constitués et le Mexique, qui lui est installé depuis un certain temps. Et on a affaire à un affrontement très inégal, qui se terminera d'ailleurs au détriment des citoyens et des combattants des États-Unis, entre une armée mexicaine en ordre de bataille, qu'on voit défiler là sur nos écrans de contrôle.
Dont Davy Crockett.
Voilà, dont Davy Crockett, effectivement. Et puis, un certain nombre de... d'égarés de l'Ouest qui sont là, parce qu'on leur a dit que, voilà, qu'il y avait un coup à faire, il y avait une bataille. Bon, ils vont... quasiment tous y rester.
Mais oui, parce que le 2e régiment de cavalerie n'est pas arrivé.
Exactement,
cette
voilà.
Fois.
Voilà, exactement. Et alors là, on a une imagerie. Enfin, c'est très intéressant parce que les États-Unis ont fabriqué eux-mêmes leur propre légende. C'est-à-dire, il n'y a pas eu un Homère ou quelqu'un qui arrivait après. Ils fabriquent eux-mêmes leur légende et ils disent voilà, il y a toujours des gens prêts à se sacrifier. À la limite, cette bande-là qui défend ce fort, qui sont des gens qu'on a trouvés dans les tavernes isolées de l'Ouest, entre deux vins, etc., entre deux whisky ou entre deux bourbons. On leur a dit qu'il faut défendre les intérêts des États-Unis, ils y vont. Évidemment, ça va mal se terminer parce que l'armée mexicaine est très très bien organisée. Bon. Mais ça, c'était une façon de vous rappeler qu'en 1848, les États-Unis ont volé le Texas au Mexique et une autre partie des possessions mexicaines sur le territoire de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Et c'est intéressant parce que c'est pas si vieux, donc ça fait 150 ans maintenant. Et que ce qui se passe aujourd'hui, dont on a parlé ces derniers temps, à El Paso, à Ciudad Juárez, c'est au fond un rappel de cette période où il n'y avait pas de frontière à cet endroit-là, puisque précisément, on était en plein milieu du Mexique. Et quand M. Trump et les gens qui tuent au nom des idéologies de M. Trump, qui tuent à vue, quand ça s'est présenté récemment à Dallas, en fait, ils ne font que vivre dans leur chair et dans leur esprit un peu dérangé, mais il n'est pas dérangé tout seul, il est dérangé dans l'idéologie états-unienne en vigueur. Ils ne font que dire, au fond, mais on n'est pas chez nous et on est obligé de se défendre contre l'arrivée des Mexicains qui sont chez eux, en tirant dans le tas. Donc on a une vraie crise, on a une vraie crise de l'impérialisme États-Unis dans les têtes, dans la psychologie individuelle, qui se finit par des morts, on le voit, parce que c'est le seul mode d'expression de ces politiques, surtout alors quand c'est relayé au plus haut niveau maintenant à la Maison-Blanche. Mais au fond, ce que les États-Unis vont devoir un jour regarder, c'est que ce que tout le monde sait sauf eux, c'est qu'ils ne se sont constitués que sur le vol et sur le brigandage, rien d'autre. Donc le vol des terres indiennes, le vol des terres mexicaines, donc des terres espagnoles et puis mexicaines, tout ça c'est eux. Et puis ils ont continué après, bon, ils ont essayé de s'installer encore ailleurs. Le seul cas, j'aime beaucoup à le rappeler, le seul cas où ça n'a pas marché, c'est qu'ils ont essayé de prendre le Canada à la couronne britannique. Et là, c'est un moment délicieux que j'aime à me remémorer. En 1812, les États-Unis disent qu'il y en a assez de ce Canada qui obéit encore à Sa Majesté britannique. Ils disent on va envahir le Canada et on va le prendre. On a déjà pris une bonne partie, on n'est pas tout à fait en 48, la conquête de l'Ouest n'est pas finie, mais on prend déjà tout le Nord et on verra après. Et puis ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ces diables de colons britanniques, agglutinés à des colons français qui sont plus français parce que depuis le traité de Paris, le Québec n'est plus français, mais enfin, il y a quand même des colons français, et surtout qui se sont alliés avec des tribus indiennes, vont décider de couper court à l'invasion du Canada par les États-Unis. Pourquoi les tribus indiennes ? Ben, tout simplement, vous savez, dans les grandes immensités de l'Ouest, on parle, on se raconte des histoires. Et donc, quand les Indiens qui sont à ce moment-là, donc sur le territoire et sous la botte des États-Unis, vont raconter à leurs petits voisins canadiens, vous savez, c'est pas facile, vous devrez résister. Et donc, les Indiens canadiens disent, on va résister, on ne veut pas être traité comme vous avez été traité, vous. Et donc on a une alliance extraordinaire donc de ces colons québécois, de ces colons britanniques qui respectent la majesté parce qu'ils sont une colonie britannique, ils assument, et de ces Indiens qui va amener à la seule et unique défaite militaire des États-Unis sur leur territoire, à l'invasion de Washington et à la mise à feu de la Maison-Blanche par les colons britanniques. Alors ça, c'est, à la limite, je ne devrais pas dire, on me fusillerait aux États-Unis si je disais ça, mais c'est la pure vérité historique. Bon, c'est ça qu'il faudra que les États-Unis acceptent, c'est-à-dire qu'ils ont pillé, ils se sont appropriés des terrains et ils n'ont jamais continué à le faire. Alors, sous d'autres formes, ce n'est pas une colonisation directe, on ne prend pas des territoires à d'autres, mais on essaye d'assurer sa domination. Ce qui m'amène, et vous voyez que j'avais tout calculé, à vous reparler de la bombe d'Hiroshima dont je vous ai parlé la semaine dernière. Parce que j'ai retrouvé entre-temps un document extrêmement intéressant basé sur des écrits de deux historiens américains. Alors je m'arrête un peu sur les historiens américains parce que, très curieusement, il se publie aux États-Unis beaucoup plus de vérités sur les États-Unis que nous n'en avons la possibilité d'en lire ici. C'est-à-dire manque de traduction, silence complet quand c'est vraiment trop dérangeant. Mais en fait, il y a aux États-Unis des intellectuels qui font leur boulot, des historiens qui font leur boulot, simplement, et ça c'est les intellectuels ou les militants des États-Unis qui l'expliquent, simplement ce qui se produit dans une université américaine, qui peut être d'une extraordinaire qualité de travail, ne circule pas. C'est-à-dire que ça ne vous donne aucun droit d'accès aux médias, on ne vous laissera pas faire un meeting, et si vous devenez une vedette populaire, vous risquez la mort. Mais autrement, liberté de recherche universitaire, liberté de travail dans les archives et tout, c'est tout à fait vrai. Et je reviens donc sur ma question du Japon. Je vous disais la semaine dernière, je le rappelle quand même, que le Japon, donc l'empire qui a décidé de faire la guerre aux États-Unis, qui a d'abord attaqué la Mandchourie en 1931, attaqué la Chine en 1937 et qui s'en prend aux États-Unis à Pearl Harbor en décembre 1941, avait une politique agressive, impériale, tout à fait claire, qu'il avait signé un accord avec le Reich nazi qui s'appelle le pacte anti-Comintern pour détruire l'URSS, une grande ambition malgré tout. Et donc cet empire a laissé faire le bombardement d'Hiroshima, il a laissé faire celui de Nagasaki, et on peut voir dans les documents d'archives japonais, parce qu'heureusement il restait des archives, il y avait des journalistes japonais, il y avait des caméras, etc. On peut voir effectivement les citoyens d'Hiroshima, le nez en l'air, au moment où l'attaque, le bombardement est annoncé, regarder arriver les 3 B-29 sans savoir ce qu'il y a dedans, et donc ils ne sont pas protégés, la chasse japonaise ne décolle pas, la DCA japonaise n'intervient pas, le gouvernement japonais laisse tomber la bombe atomique. C'est ça qu'il faut savoir. Ça, c'est très, très important. Alors, ils le font une fois et ils le refont 3 jours après avec la deuxième à Nagasaki. Bon. Donc, on a un certain nombre de centaines de milliers de victimes immédiates et puis ensuite, avec les irradiations, le rayonnement, les victimes suivantes, on a une vision de la réalité de ce qu'était l'impérialisme japonais qui est un peu plus précise. Et ça se précise encore plus quand on voit le traitement que les États-Unis ont fait subir au Japon après la guerre. La première chose, c'est qu'ils décident de maintenir l'empereur. Alors, nous, on le présente ici sous le jour, l'empereur, c'est une espèce de divinité à laquelle il ne fallait pas toucher, on leur aurait fait de la peine, etc. C'est totalement faux. L'empereur Hirohito avait fait installer le quartier général des forces japonaises dès l'attaque de la Mandchourie, dès 1931, a fortiori à partir de 1937 au moment de l'agression de la Chine, dans le palais impérial, c'est-à-dire il n'avait qu'à quitter son bureau, il était à l'état-major, c'est-à-dire il suivait tout au jour le jour, tout le détail des opérations, c'était lui le chef de guerre. C'est ça qui est très très important à savoir. C'est établi dans l'ombre d'un doute. Comment donc expliquer la volonté de maintenir ce monsieur donc, qui était vraiment le chef de guerre? C'est-à-dire, on n'ose pas, parce que c'est l'empereur, créature extraordinaire, surhumaine, etc. On n'ose pas ici, nulle part, comparer Hirohito à Hitler. Or, c'est la seule comparaison valide. C'était exactement le même fonctionnement d'une politique agressive, d'invasion, de destruction de l'adversaire, de prise en, d'invasion de territoires étrangers. C'était la même politique, et à telle enseigne, je dis qu'ils avaient signé un pacte commun en 1936 pour détruire l'URSS à tous les deux. Ça n'a pas marché, pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir. C'est très important parce que ceci explique aussi pourquoi le Japon a capitulé en échange du maintien de l'empereur à son poste, le plus vite possible, non pas à cause des bombardements atomiques qu'ils ont laissé faire. Il faut savoir que dans les jours suivants, donc les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, aucun secours n'est arrivé de la part des autorités japonaises à l'extérieur de ces deux villes. C'est-à-dire, les bombardés se sont débrouillés tout seuls, dans une situation apocalyptique, inconnue de l'humanité. Ils ne savaient pas ce que c'était. Quand vous avez souffert d'une température qui monte à 700-800 degrés, à des vents qui soufflent à 1000 km à l'heure, même si vous avez vu d'un peu loin, vous êtes dans une situation ultra-humaine. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes choqué. Bon. Le Japon, d'ailleurs, restera choqué assez longtemps pour ça, mais ça ne sera pas grave. Et donc, on dit le Japon capitule et Hirohito reste au pouvoir. Alors, je renvoie à mon symétrique. Imaginons qu'on ait dit l'Allemagne capitule et Hitler continue à exercer le pouvoir. Tout le monde aurait hurlé. Or, si ça n'a pas eu lieu, Pourquoi ça n'a pas eu lieu, ça? C'est parce que les troupes soviétiques sont venues chercher Hitler dans son trou. C'est ça qui s'est passé. Or, ça aurait pu se passer aussi au Japon. Et ça ne s'est pas passé parce que la capitulation a fait que les troupes soviétiques qui étaient encore de l'autre côté des détroits séparant la Mandchourie du Japon, donc insulaire, n'ont pas eu le temps d'arriver. C'est ça qui est très très important. Et tout a été fait pour qu'il n'ait pas le temps d'arriver. Et d'ailleurs, la capitulation du Japon a été remise entre les mains d'un général américain. C'est ça qui est très très important. Bon, il y a eu alors, continuons la parallèle, il y a eu un procès de Tokyo qu'on voulait le pendant du procès de Nuremberg. Alors, on n'a évidemment pas inculpé l'empereur, puisqu'on avait décidé que lui, on le gardait. Alors, Hitler, on n'a pas pu, puisqu'il s'est suicidé dans son bunker, donc l'affaire était classée. Mais on a inculpé un certain nombre de gens. Il y a eu, je crois, une dizaine de condamnations à mort, à des niveaux très élevés dans la hiérarchie, et puis ça s'est arrêté là. Les autres ont eu des peines assez longues. Les perpétuités ont duré entre 5 et 8 ans au maximum. Ça a été très tranquille. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ne voulaient surtout pas se retrouver donc, dans la situation d'une armée soviétique sur l'archipel japonais qui leur aurait posé des problèmes qu'ils ne voulaient pas avoir. C'est ça la réalité, et c'est ça qu'on retrouve dans les textes d'historiens américains qui ne sont pas contestés. Mais ça m'amène à dire que vous pourrez entendre parler de ce sujet-là. J'en viens à l'annonce de l'émission de demain soir, vous avez suivi mon regard. Donc le Japon nazi, le Japon oui impérialiste n'a pas été attaqué, enfin il n'a pas été condamné dans ses structures de décision, dans son type de gouvernement, dans son mode de fonctionnement. On l'a laissé continuer à être ce qu'il était. On a imposé autour de cet empereur maintenu, donc cet empereur impérialiste criminel, un parti libéral qui a gouverné le Japon pratiquement tout le temps depuis 1945, et on en a fait un ami soumis, parce qu'effectivement, la blessure d'Hiroshima était quand même vive et ne pouvait pas imposer, enfin, un empereur ou ses successeurs n'auraient pas pu imposer à la population japonaise une deuxième aventure du même acabit, j'allais dire. Bon. Mais c'est ça qui s'est passé, donc on en a fait une semi-colonie, on a installé ce qu'il faut de troupes américaines dans des îlots du Pacifique appartenant au Japon pour éviter qu'ils aient l'idée de s'en prendre aux colonisateurs américains. Donc ce parallèle qu'on ne fait jamais entre l'Allemagne nazie et l'impérialisme japonais, il mérite d'être fait. Il est fait dans des travaux d'historiens américains. Il n'est jamais fait en France. Ça qu'il faut rappeler. Parce que le Japon est très développé, très ci, très ça. Il y a toute une littérature mangaesque ou autre sur ce Japon. C'est une fausse lecture. C'est une fausse lecture, mais qui est dans l'intérêt, qui a été fabriquée par les États-Unis. Puisque, en fait, il faut se souvenir en plus que de 1945 à 1952, l'empereur est sur son trône, mais celui qui gouverne s'appelle le général MacArthur, qui a tous les pouvoirs, qui rédige la constitution japonaise, qui édicte les lois. C'est ça la colonisation réelle du Japon par les États-Unis.
Et identité idéologique entre les deux identité complète, idéologique
complète
entre les États-Unis, quoi qu'on en dise, entre les États-Unis et le Japon impérial.
Tout à fait.
Et impérialiste.
Et on va retrouver ces connivences beaucoup plus tard, j'y repensais, parce que en 1974, vous vous souvenez qu'il y a, enfin, en 1974, les États-Unis font mauvaise figure parce qu'ils sont en train de se prendre des paires de claques considérables au Vietnam, où elles ont presque déjà prises. Et donc, on vient à leur secours de cet empire en souffrance en créant la commission trilatérale, une invention de Brzezinski. La commission trilatérale, ça consiste à dire, bon, l'Occident occidental, l'Occident impérialiste et capitaliste est menacé, donc il faut serrer les coudes. Donc c'est pas les États-Unis tout seuls, surtout dans une phase d'affaiblissement ou de difficulté transitoire, c'est la guerre du Vietnam, on va serrer les coudes. La commission trilatérale, c'est on serre les coudes entre l'Union européenne, à la taille qu'elle a à cette époque-là, et le Japon, pour montrer que les piliers du capitalisme occidental, il y en a trois. Et il n'y en a pas qu'un seul qui est en difficulté au Vietnam. C'est ça que ça veut dire. Donc ça a toujours resservi et ça continue à servir. Cette Europe occidentale est aussi donc un territoire où les États-Unis veulent faire la loi. Et il n'y a pas que. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur la politique. Alors oui, je voulais parler épuration, parce que ce que je vous disais donc, sur le fait que l'empereur Hirohito n'a pas été jugé, on a jugé quelques dignitaires, mais le moins possible. Ceux qui avaient des peines de prison à perpétuité ne les ont pas effectuées. Il y en a quelques-uns qui sont morts en prison. Enfin, c'est négligeable. Quoi. Au total, il y avait 25 inculpés ou 28 inculpés, une bricole. Alors que l'armée japonaise avait quand même de 31 à 45 fait fait pas mal de massacres ici et là, au Japon en particulier, en Chine en particulier, et que donc elle n'avait pas du tout les mains propres. Mais c'est passé dans la recolonisation. Et donc, je voulais dire qu'il n'y a pas eu d'épuration au Japon. On avait déjà eu l'occasion, dans une émission qu'on avait fait avec Annie Lacroix il y a quelques mois, de dire qu'il n'y avait pas eu d'épuration en Allemagne non plus. C'est-à-dire qu'il est arrivé à la tête de l'Allemagne RFA, donc l'Allemagne de l'Ouest à l'époque, et à la tête des premières institutions de l'Europe actuelle, donc la CK, le marché commun. Il est arrivé des dignitaires nazis de très haut rang, qui n'avaient pas été du tout rayés, brisés dans leur carrière. Donc il n'y a pas eu d'épuration en Allemagne, il n'y a pas eu d'épuration au Japon. Il y a eu une épuration en Italie, un peu plus, parce qu'effectivement la libération de l'Italie, il faut le rappeler, a été assurée principalement par des Italiens eux-mêmes. Et là, effectivement, ce n'est pas les Italiens, ce n'est pas les troupes états-uniennes qui ont accroché Mussolini à un croc de boucher. OK. Hein? Donc ça, il faut le rappeler. Donc, épuration en Italie un peu moins, parce qu'effectivement, c'est les Italiens, pour une large part, qui ont réussi à libérer leur territoire, enfin, qui ont fait fuir le dictateur. Après, les troupes américaines sont arrivées, mais Mussolini était déjà parti. Et donc, ça amène à dire que cette question de l'épuration, là, elle est très très claire. Il n'y a pas eu épuration en Allemagne, il n'y a pas eu épuration au Japon, je viens de le dire. Et puis, il va être démontré, à la lecture d'un ouvrage que vous pourrez trouver bientôt dans toutes les librairies, qu'il n'y a pas eu d'épuration en France. Parce que Annie Lacroix-Ry, que nous connaissons, que nous avons déjà invité à plusieurs reprises à cette antenne, vient de publier un livre qui s'appelle « La non-épuration en France » ou « Preuve à l'appui » dans les archives allemandes, américaines, françaises, avec le travail qu'elle sait très bien faire, prouve qu'effectivement, à part un ou deux personnages, je pense à Pierre Laval et un ou deux autres, mais il n'y a pas eu d'épuration en France, c'est-à-dire que les cadres bourgeois collaborationnistes de 40-45 se sont retrouvés à la tête du pays sans difficulté. Ils ont eu un petit moment d'inquiétude en 45-46, parce qu'il y avait vraiment un peu trop de communistes sur la place et que ça les empêchait un petit peu de dormir. Ça allait même empêcher Marseille de dormir, puisque à un moment donné, on a eu un maire communiste que les socialistes ont chassé avec les voyous. Enfin, les socialistes aidés de voyous, je vais être très précis, ont chassé du conseil municipal de Marseille en 1947. Mais donc, cette inquiétude l'a passée temporairement. Tous ceux qui avaient collaboré, bourgeois, magistrats, industriels, banquiers, se sont retrouvés à la tête des affaires françaises et des affaires de la petite Europe en voie d'agrandissement.
Voilà ce qui est important.
Donc, demain soir, voilà, à
20h, 21h30,
vous pourrez écouter Annie Lacroix-Ry développer sur cette question de la non-épuration en France et à propos de son nouveau livre qui mérite d'être lu, qui est le résultat d'un énorme travail de sur les archives. Écoutez qu'il n'y a pas eu d'épuration en France et en particulier ainsi sur le fait que tous les magistrats en poste, alors ça c'est une anecdote qui vaut son pesant de cacahuètes, il y a eu au moment où donc l'Assemblée nationale donne les pleins pouvoirs à Pétain, donc en juin 40, après il est demandé aux fonctionnaires de l'État de faire acte d'allégeance au nouveau régime voté par le parlementaire. À 80 près, vous savez qu'il y a 80 députés qui ont refusé de voter pour Pétain. Sur l'ensemble des magistrats du territoire français, il y en a un qui a refusé de se coucher devant Pétain. Un seul. Voilà. Donc la magistrature a traversé l'occupation tranquillement et elle note dans son travail que la plupart de ceux qui ont eu des postes importants dans la collaboration ont fait de très très belles carrières à la Cour de cassation, dans les grandes juridictions ensuite. CQFD, il n'y a pas eu non plus d'épuration en France, mais Annie Lacroix-Ry nous en parlera demain. Voilà. C'était important de le rappeler. Qu'est-ce que j'avais encore à dire ? Il me reste une minute ? Oui, il me reste une minute. Alors, on va probablement à des élections législatives en Italie. On en reparlera. Parce que M. Salvini, donc le fasciste de la Ligue, a réussi à obtenir une dissolution de la Chambre et il veut prendre toute la place, c'est-à-dire que le gouvernement d'alliance entre la Lega et les Cinque Stelle va probablement mourir à l'occasion de ces élections. Et donc l'extrême droite italienne aura la totalité du pouvoir si rien ne se passe dans les rues italiennes, ce que chacun d'entre nous souhaite évidemment. Merci beaucoup Aïcha, à la semaine prochaine.
Au revoir.